L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors nous voilà pour une nouvelle émission. Comment évangéliser la vie sexuelle du couple ? Et globalement, la sexualité, ça peut concerner bien sûr aussi les jeunes. Après la précédente émission, où nous avions essayé d'aborder la question, comment essayer d'évangéliser la vie conjugale. Et donc, Maud, nous allons d'abord commencer par un évangile au chapitre 6 de Marc.
Chapitre 6. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà, c'est un texte, Alex, où on voit que le Christ les envoie deux par deux. Et c'est spécifié que c'est pour la première fois. Donc c'est vrai que quand on est un couple, on se sent concerné par cet appel du Christ.
Voilà, et nous avons désiré avoir choisir ce texte plus particulièrement dans ce qui est vraiment très très spécifique à la vie conjugale, c'est la sexualité. Et effectivement, je pense qu'on est vraiment les mieux placés pour effectivement apporter un témoignage et annoncer la bonne nouvelle du Christ concernant la sexualité. Donc, on va pas tout reprendre, Maud, tout ce qu'on a déjà évoqué longuement sur le sens de la sexualité, la théologie de la sexualité, du corps, en s'appuyant notamment beaucoup sur les textes de Jean-Paul II. Mais je crois qu'il est important de pouvoir souligner combien le Seigneur vient également, le Christ, vient libérer l'homme et la femme, y compris dans leur sexualité, et que c'est une vraie libération, et qu'on a pris souvent le parallèle de Cana, avec Cana qui nous permet de goûter le bon vin pour la fin, c'est-à-dire que notre sexualité est amenée, quand elle est vécue avec le Christ, à être de plus en plus dilatante et riche, enrichie, alors que la dynamique du monde est de nous apporter, entre guillemets, la preuve que, au début, c'est le pied, mais au fur et à mesure, on en est de plus en plus, je dirais, insatisfait, et à un moment, ça en vient même à être de la piquette. C'est pour ça que les gens crèvent d'amour cherchent toujours des expériences sexuelles différentes, etc., etc., ce qui nourrit beaucoup de déviance. On l'a longuement abordé. Et donc, c'est vraiment l'évangile du Christ pour la sexualité, et vraiment une très très bonne nouvelle. Et donc, nous avons à l'annoncer et à la présenter. Mais Maud, d'abord, ce qui est d'abord la première difficulté, ce qui est très important de souligner, c'est que, justement, sur la sexualité, le monde nous attend particulièrement sur ce sujet.
Voilà, parce que ce n'est évidemment pas un sujet facile à aborder, puisque tout comme tout le monde le sait, les médias et les mentalités contemporaines ont vite fait d'associer église et froideur et de nous transmettre une opinion comme quoi tout ce qui concernerait la révélation chrétienne serait contre le plaisir, la sexualité épanouie, etc. Enfin, tout un tas de mensonges que nous avons déjà, je dirais, laborieusement et méthodiquement décrypté dans nos émissions passées. Donc nous savons que sur ce sujet, l'Église est relativement mal attendue, si je puis dire, et mal entendue.
Et on dit souvent, que les témoins de la charité, la solidarité, etc., dans l'Église, la mère Teresa, les sœurs Emmanuel et les abbés Pierre, ça, ils sont au pinacle, je dirais, du monde, parce que vraiment leur témoignage est vraiment tout à fait perçu. Par contre, ceux qui, effectivement, témoignent au niveau de la sexualité selon les desseins du Seigneur, souvent, ils sont vraiment assez critiqués. Donc, effectivement, c'est un sujet, entre guillemets, c'est un sujet chaud et délicat.
Voilà, on n'a pas choisi la bonne cible, Alex. On est parti sur le terrain le plus mouvant qui est actuellement, peut-être, par rapport à nos contemporains. Mais pourtant...
Et pourtant, nous avons la profonde conviction que c'est un sujet, si l'Église arrive à vraiment à évangéliser en vérité ce domaine, c'est un domaine sur lequel tout le monde est concerné. Quand nous évangélisons concernant la charité, les plus pauvres, les plus malades, etc., etc., bien sûr, ça sensibilise tout le monde, mais c'est vrai que ça concerne le plus souvent, en tout cas dans notre société, des franges entre guillemets marginales de la population. Mais évangéliser la sexualité, et donc pour nos interlocuteurs, accueillir la bonne nouvelle de l'évangile du corps, de la sexualité, du don de l'amour, etc., ça concerne quasiment tout le monde. Parce que c'est le sujet principal de l'ensemble des émissions, de l'ensemble des canards, de l'ensemble des médias, des discussions, etc., etc. Ça parle de cul, de sexe, d'amour, de relations, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça le prend dans la tête, et les gens ont besoin de ça. C'est quelque chose, c'est un sujet fondamental. Donc, introduire à cette bonne nouvelle, l'enjeu, le sujet, effectivement, est difficile, et ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est un sujet très délicat, c'est un sujet où on peut se casser la figure. Mais c'est un sujet dont l'enjeu est absolument fondamental parce que tous nos contemporains y aspirent profondément.
Et sur ce sujet-là, le Christ nous envoie, si je puis dire, démunis, puisqu'il nous dit « ne prenez pas de bâton, ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie, ni rien ». Il nous demande d'y aller avec notre expérience. On n'est pas des spécialistes. On y va pour témoigner de comment est-ce que le Christ va infuser son œuvre de vie jusque dans cette intimité conjugale que nous expérimentons d'abord pour nous.
Voilà, c'est ça qui est très important, c'est que nous sommes d'abord les témoins, nous ne pouvons évangéliser entre guillemets la sexualité que si jamais d'abord nous avons tenté d'évangéliser notre propre sexualité conjugale. Et donc il nous faut d'abord saisir, accueillir, expérimenter d'abord en nous-mêmes, personnellement et conjugalement, si on peut dire, le sens éternel de Dieu vis-à-vis du couple et de la sexualité, tout en étant parfaitement lucide que c'est un combat qui se joue là, c'est qu'effectivement nous sommes appelés à vivre une liturgie, une immense dilatation, à accueillir ce plaisir et cette communion et cette joie conjugale, mais tout en étant donc parfaitement lucide que cela s'accueille avec aussi un travail de combat, de purification contre ce qu'on appelle la concupiscence. Effectivement, cette déviation de notre regard et de nos sentiments qui vont nous faire, érotiser, pornographier, je ne sais pas comment on peut dire.
Oui, je ne pense pas que ce soit très français, mais on a compris ce que tu voulais dire.
Nos relations, etc. Et ça, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent pour pouvoir, toucher, goûter le sens de la révélation, de l'évangile, de la sexualité.
Bon, c'est vrai qu'on part aussi dans un terrain où l'Église a souvent eu, en tout cas des hommes et des femmes d'Église, ont souvent eu des propos pas justes. Donc on est dans un espèce de mécanisme de balancier où on est resté, disons-nous, dans une attitude très prudente, très chaste, trop prude, trop distante, trop méfiante par
chaste,
rapport à...
Chaste, c'est pas de problème, voilà. Mais trop prude.
Prude, voilà.
Trop prude, la chasteté, c'est tout à fait évangélique. Mais tout à fait trop prude, distante, voilà, on est finalement, et méfiante.
Voilà,
et méfiante.
Avec un propos relativement
distant
par rapport à tout ce qui touche
voilà,
à
alors que notre foi, c'est une religion du corps, une religion d'incarnation. Hein, l'Eucharistie, le corps du Christ, une seule chair, enfin je veux dire, par rapport à toutes les autres religions, la question du corps est absolument fondamentale chez les croyants, mais on ne va pas refaire ce qu'on a dit plusieurs fois. Mais voilà. Également, il y a également un autre écueil, c'est que finalement on a tellement été dans l'écueil de la critique, sexualité égale péché, etc., etc. Bon, on a pris conscience quand même qu'il y avait pas mal d'erreurs, mais d'un autre côté, à ce moment-là, du coup, on ne se permet plus aucune parole négative concernant la sexualité, et finalement, on va dire que toute sexualité est bien, est bonne. Et effectivement, voilà. À un moment, et on ne parle pas même de travail de conversion de la sexualité des époux chrétiens. Et du combat permanent.
Il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'église qui maintenant ont au contraire de la difficulté à avoir une parole, je dirais, pour éveiller à une conversion sur ces sujets-là. Donc on part du respect immense du couple qui fait ce qu'il veut sur ce domaine-là, mais non, il a aussi à être guidé, il a aussi à se convertir, parce que c'est le chemin de conversion qui libère l'intensité du bonheur. Et c'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut. Tout n'est pas bon à prendre dans la vie sexuelle, et nous, couples, en sommes les premiers à être lucide sur cette question-là. Nous savons très bien que tout type de sexualité n'est pas bon, n'est pas bonne et ne porte pas un fruit positif pour notre vie et pour notre couple. Donc si nous le savons, nous avons aussi besoin d'avoir en, dans l'Église, un repère pour des points de conversion, des points de cheminement où nous avons à grandir aussi dans notre intimité conjugale.
Alors, c'est pour cela que, effectivement, ceux qui veulent travailler à cette évangélisation doivent saisir le sens de la sexualité tel que l'Église l'a bien sûr défriché, et je pense que tel que Jean-Paul II l'a défriché comme jamais dans l'Église latine et catholique. Jean-Paul II, qui va saisir à la fois toute la beauté de la sexualité, tout son appel fantastique au niveau d'une seule chair, de cette liturgie propre des époux, et à la fois au niveau de tous les écueils, de tout le travail de conversion et de purification. Donc il faut méditer et travailler cet élément-là.
D'ailleurs, il y a beaucoup de nos pasteurs actuels, les prêtres ou, disons, ceux qui sont en charge de responsabilités sur les sujets, justement, de l'amour conjugal et la sexualité, qui n'ont sans doute pas assez médité ces paroles de Jean-Paul II, qui viennent donner tout un sens et profondément, je dirais, salvateur dans cette relation conjugale tournée vers le Christ et qui va produire des fruits de vie pour notre vie.
On se retrouve dans un instant. Nous revoilà, Maud, pour continuer cette émission sur l'évangélisation de la sexualité, sujet très difficile. On essaye justement de voir comment aborder cette question, comment l'évangéliser, quand nous sommes en discussion, en rencontre avec différents interlocuteurs. Voilà, il y a différents points qu'on veut pouvoir aborder.
Voilà, on a signalé tout à l'heure l'importance d'avoir déjà vécu pour soi ce travail de conversion et puis de sens de la sexualité. Et c'est vrai qu'on va redire ce qu'on a déjà dit sur d'autres thèmes. L'évangélisation sur la sexualité exige de nous une vie intérieure vraiment avec le Christ, et puis une annonce, je dirais, existentielle. Nous n'annonçons pas une morale, nous annonçons la joie de percevoir et de vivre une relation sexuelle qui a du sens, qui va vers un plus grand bonheur, qui va vers une plus grande communion. Donc tout ce qui découle de ce sens-là sera dans un deuxième temps pour, je dirais, plus la structuration de croyants qui sont en train de cheminer avec le Christ. Mais dans un premier temps, c'est vraiment une annonce existentielle.
Voilà, c'est toujours notre propos dans la mission, toujours existentialiser, un grand mot, nos propos pour que on ne plaque pas un catéchisme, mais qu'on puisse apporter un éclairage de vie. C'est pour ça que nous devons clarifier combien la sexualité telle qu'elle a été voulue par les créateurs est vraiment complètement inscrite dans ce dessein, cette profonde communion, cette exultation d'Adam vis-à-vis d'Ève, etc. Mais c'est que cette sexualité a été gauchie par notre expérience, par l'expérience du péché, et que cette fracture pourrit notre vie, et pourrit notre sexualité. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la puissance de la parole, sur disant, concrètement, effectivement, le péché nous entrave sur le chemin du bonheur. Cette convoitise qui gauchit complètement notre sexualité est trompeuse, dit l'apôtre Paul. Elle est source de jouissance éphémère également. Donc, c'est pour ça que... Et ce péché, dit-il encore... Non, c'est Pierre qui le dit. Ce péché est insatiable. Sexualité est bien adaptée par rapport... Sexualité gauchie, elle montre bien que c'est insatiable. On voit bien au niveau de la pornographie, de la masturbation, de tout le côté addictif des consultations, des sites porno, etc., etc. C'est... Voilà, partons de l'expérience en disant, mais voyons bien qu'à un moment... Même sans tomber dans des perversités, etc., à un moment, une sexualité qui n'est pas branchée sur un sens profond de d'où elle vient et où elle va, à un moment, je dirais, nous dessèche, ne nous convient pas, ne nous comble pas, etc., etc. Donc, relisons, quand nous évangélisons la sexualité, parlons de la sexualité et des fruits qu'elle porte.
Oui, je crois que nous avons une responsabilité très grande de libérer une parole de vérité sur ce sujet-là. Et c'est, les couples chrétiens ont cette capacité de pouvoir dire, alors que c'est franchement pas politiquement correct aujourd'hui dans notre société, de pouvoir mettre des mots sur l'insatisfaction sexuelle des gens. Pourquoi est-ce que vous vivez une telle détresse ? Et mettre du sens à cette question-là en donnant la vérité sur la question. Quand nous ne sommes pas dans une démarche d'évangélisation de notre sexualité, d'amour envers l'autre, et que nous sommes dans une démarche de plaisir, de jouissance éphémère, nous sommes en train de pervertir la relation sexuelle, et voilà ce que nous ressentons, de la tristesse, de l'amertume. Qui aujourd'hui dans le monde a le courage de dire ça en vérité et de mettre des mots sur ce que chacun ressent ? Eh bien, les couples chrétiens ont cette responsabilité-là.
Mais il en est de même, il faut aussi en parler, parce que ça concerne aussi à des mamans, on le sait aussi par témoignage, etc., combien aussi de couples chrétiens, qui sont des couples super par ailleurs, sont aussi profondément déçus par leur sexualité. Et ils ont aussi à évangéliser leur sexualité. Parce qu'effectivement, elle est terne, elle est routinière, ou elle s'espace de plus en plus, ou finalement, finalement, ils n'exercent plus ce ministère fondamental de s'unir l'un à l'autre. Et donc, il faut pouvoir nommer, identifier, justement, ces travers de la sexualité. Et que la sexualité, selon les desseins de Dieu, doit nous conduire à une dilatation du cœur immense, doit nous conduire à une joie immense, et une joie qui est en crescendo. On ne prend pas simplement son pied quand on a 25 ans ou 30 ans, et après c'est que du décrescendo. C'est pas vrai. Au contraire, plus on travaille sur une purification de notre sexualité, une conversion de notre sexualité, plus on va mieux saisir le sens, je dirais, spirituel, liturgique, la dilatation, tout ce qu'elle signifie.
Ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ se sert souvent des blessures même que nous avons vécues sur ces sujets-là pour être après témoin de la lumière, justement là où nous avons souffert. Il y a un jeune couple que nous connaissons qui a passé une bonne partie de
sa jeunesse,
son adolescence un peu prolongée dans un monde de la nuit, dans un monde de drogue,
éclaté,
de sexe, etc. Et qui, au sein même de cette nuit, a progressivement découvert le Christ. Et aujourd'hui, ils peuvent témoigner avec des mots extraordinairement vrais et justes parce qu'ils sont passés par là, de ce changement complètement profond dans leur sexualité, de cette espèce de déprime dans laquelle ils étaient enchaînés, si je puis dire, à la libération qu'ils commencent à goûter. Et maintenant qu'ils ont plusieurs enfants, c'est vrai que leur témoignage auprès des jeunes et de ceux qui sont dans cette expérience-là est extraordinaire de force et de justesse, parce qu'ils peuvent mettre des mots sur cette expérience et dire la vérité de la révélation.
Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce témoignage, dans leur cheminement. C'est que justement, ils s'aimaient, et ils se rendaient compte que ce monde dans lequel ils étaient, les emprisonnait complètement, et c'était vraiment que c'était éphémère, c'était trompeur, ils étaient vraiment prisonniers. Et à un moment, ils ont dit, nous voulons sortir, nous voulons nous libérer. Nous n'allons jamais nous en sortir si jamais on ne change pas. Et à ce moment-là, ils se sont tournés vers effectivement elle avait toujours prié un peu le Seigneur, Marie, etc., malgré un peu sa vie un peu dissolue, etc., et un peu de débauche. Et puis lui aussi s'est raccroché à ça, etc. Et puis ils ont commencé à cheminer, à avoir un prêtre et tout et tout. Et au fur et à mesure, ils ont remonté la pente, etc., 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 etc. Et aujourd'hui, ils disent, mais notre sexualité, dès qu'on la vit avec le Seigneur, mais combien elle a une richesse qui est incroyable par rapport à la vie... Alors là, je peux dire qu'on s'éclatait comme des bêtes, mais vraiment, elle ne nourrissait pas. Au contraire, elle nous déprimait. Et c'est ça qu'il faut entendre. La sexualité évangélisée est une sexualité qui dilate, qui épanouit. Une sexualité qui n'est pas vécue avec le Seigneur est une sexualité dans laquelle on peut peut-être s'éclater, mais à un moment qui va assécher et qui va déprimer.
Donc pour témoigner de ça, bien sûr, il faut être passé par ce travail de purification et commencer à en voir les fruits. Bien sûr, on ne peut pas attendre d'être des saints aussi dans notre relation sexuelle avant de parler sur le sujet, parce que déjà, nous goûtons le chemin de libération que le Seigneur nous donne. Parce que la sexualité, c'est vraiment un lieu déterminant où on peut tester, si je puis dire, l'efficacité du salut du Christ.
Voilà, et donc c'est pour ça qu'il nous faut travailler... annoncer que le combat ne se fait pas d'un coup de baguette magique, que c'est un combat, c'est un cheminement, mais qu'au fur et à mesure, nous avançons avec le Christ et nous goûtons au fur et à mesure les fruits de conversion dans notre vie, y compris sur la sexualité. Et que c'est un chemin forcément qui a un cas, et un moment on chute, et un moment etc., etc., mais que nous pouvons travailler à cette croissance, à cette dilatation. Et c'est le chemin d'une vie, Maud.
C'est le chemin d'une vie sur lequel, évidemment, il y a énormément de sujets qui sont greffés. Là, nous parlons de la sexualité, mais on pourrait parler aussi plusieurs émissions sur le thème de la vie qui découle directement de la sexualité, l'ouverture à la vie, la fécondité, et puis l'acceptation de toute vie, quelle qu'elle soit, le respect depuis la conception jusqu'à la mort. Tout ça est lié, finalement, à cette vision d'un amour vrai, d'un amour donné où il n'y a ni mais ni si. Je t'aime, je veux t'aimer, je rentre dans cette logique du don qui fait qu'il n'y a jamais de suspension, de point d'interrogation qui suspendrait notre amour à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes ou d'intérieur à nous-mêmes. Et l'ouverture à la vie vient de là, vient de cette compréhension qu'un amour total plaigné ne supporte pas les points d'interrogation. Il n'y a pas de possibilité pour un point d'interrogation. Et ça, c'est un chemin de conversion qui est un chemin de libération. Parce que quelle joie dans un couple quand on sait que, quoi qu'il arrive, l'amour sera premier.
Alors Maud, je crois que dans ce sujet de l'évangélisation de la sexualité, il faut pouvoir insister sur des moyens vraiment très privilégiés que l'Église nous offre pour convertir notre sexualité. On a parlé de la prière, la parole de Dieu, etc. Mais il y a deux moyens, pour dire, sacramentaux, qui sont très importants. C'est tout ce qui est lié, bien sûr, à l'Eucharistie, donc à la fois la nourriture, pouvoir se nourrir au corps et au sang du Seigneur, mais aussi l'adoration. Combien de fois nous avons fait l'expérience que des jeunes ou des couples ont vraiment vécu des chemins de guérison profonde de leur sexualité dans cet exercice de l'adoration, cette nourriture au corps et au sang du Christ.
Parce que quand on contemple le corps de Jésus, on est aussi guéri dans son corps, et donc guéri dans son cœur, qui va après passer par le corps. Tout ça, c'est intimement lié, on en a longuement parlé, mais redire un peu cette importance primordiale de l'adoration et de se nourrir de l'Eucharistie quand on le peut, pour convertir aussi nos corps et qu'ils soient rayonnants de l'amour du Seigneur.
Voilà, et puis deuxième sacrement aussi important, bien sûr c'est le sacrement de réconciliation qui permet vraiment aussi de libérer nos cœurs et nos vies du poids du péché. Et combien, je dirais, nous avons accompagné à un moment des couples justement à cette relecture, etc., etc. Et après c'était magnifique de voir à un moment aller recevoir auprès d'un prêtre le sacrement du pardon et faire tout ce chemin, et qui est vraiment un chemin de libération. Et finalement il y a une relecture de vie, parce qu'on se reconnaît, on reconnaît tous les fruits de mort qu'il y a pu avoir dans notre vie, et d'avoir cette libération qui est donnée par le pardon même du Seigneur, c'est extraordinaire. Voilà, donc ne négligeons pas ces moyens.
Voilà, nous vous souhaitons vraiment de découvrir la grâce de vivre votre sexualité sous le regard du Seigneur et d'en témoigner auprès de tous ceux qui en ont besoin.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous conduise en toutes choses. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
the extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.